Les biais cognitifs. Voilà sûrement ce qu'il faut comprendre et connaître pour ne plus se faire manipuler par vous-même. Et bien sûr, pour fermer la porte aux manipulateurs moins bienveillants que vous qui voudraient profiter d'avoir les plans de votre cerveau pour y faire ce qu'ils veulent. Et quand on voit ce qui se pratique dans le marketing parfois, je trouve que cette métaphore n'est pas complètement exagérée. Les biais cognitifs représentent l'ensemble des jugements erronés faits par le cerveau. Pourquoi ils existent ? Pour notre survie, probablement. En effet, le cerveau peut apporter un jugement rapide sur une situation en contournant la pensée analytique, donc de manière intuitive, pour prendre des décisions immédiates. Cela a sûrement été utile dans le développement de notre espèce, mais il faut admettre que nos jugements et nos prises de décision ne tiennent en général pas compte de toutes les informations pertinentes et ne passent pas par un véritable raisonnement. En résumé, un biais cognitif est donc une déformation du raisonnement, transformant l'information de base en une autre. On peut distinguer deux types de biais très distincts. 1. Les biais issus d'un manque de ressources cognitives. Il manque alors des éléments, des informations, de la concentration, des capacités à raisonner ou simplement du temps pour que le cerveau puisse faire un véritable raisonnement analytique. 2. Plus fréquents. Les biais émotionnels, de motivation ou encore moraux. Ils vont s'appuyer sur vos croyances, vos peurs et vos désirs tout en jouant sur vos émotions. En 1970, les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky constatent que dans le milieu économique, des personnes pourtant qualifiées prenaient des décisions qui étaient manifestement irrationnelles. Ils commencent à chercher pourquoi et utilisent pour la première fois le terme « biais cognitif », dont le mot « biais » démontre bien que quelque chose a été dévié de sa trajectoire initiale. Ces biais permettent donc au cerveau de ne pas perdre de temps et de ne pas consommer trop de ressources, un peu comme le processeur d'un ordinateur que l'on voudrait économiser. Ils sont comme des raccourcis cérébraux permettant d'arriver plus vite à destination sans vérifier si c'est la bonne. Selon l'auteur Buster Benson, nous pourrions classer les biais en quatre catégories distinctes selon qu'ils s'activent. 1. Lorsque nous manquons de temps. 2. Lorsqu'un ensemble manque de sens ou que nous manquons de données. 3. Lorsque nous sommes soumis à trop d'informations d'un coup. 4. Lorsque nous devons nous rappeler quelque chose. Car oui, ils peuvent même donner du sens à ce qui n'en a pas. Je me souviens du 22 avril 2017 où je prenais le train pour rentrer d'un spectacle. Sur le quai, je vois ma voiture, mon wagon, et je remarque qu'en bas du wagon, il est noté une référence en lettres noires, 77 VO 17. Et le 22 avril est la date de naissance de ma sœur, née en 1977, dont les initiales sont VO, et qui habite dans le département de la Charente-Maritime, 17. Le fait de trouver ça marquant et de l'avoir en tête 3 ans plus tard est un biais de corrélation illusoire. Car mon cerveau a trouvé du sens entre des données qui ne sont pas liées entre elles. Avant de vous expliquer la porte grande ouverte qu'offrent les biais cognitifs aux manipulateurs, et comment vous pouvez la refermer, voici un exemple concret issu des travaux de Al Arkes et Catherine Blumer de l'Université de l'Ohio et paru dans The Psychology of Sunk Cost en 1985. Il s'agit ici du biais des coûts irrécupérables, soit les sunk costs en version originale, qui nous empêche de traiter convenablement un problème mettant en opposition les coûts irrécupérables qui ont déjà été dépensés et la décision de réaliser ou non un investissement. L'exemple consiste à imaginer un jeune homme qui remporte le premier prix à un jeu concours organisé par une radio locale. Ce premier prix est un billet gratuit pour assister à un match de football américain. Le gagnant du concours est très content, mais ne souhaitant pas y aller seul, il propose à l'un de ses amis de se procurer un ticket pour venir avec lui au match. Le jour J, quelques heures avant d'aller au match, le gagnant du jeu radio voit par la fenêtre qu'un énorme blizzard se lève. Il explique à son ami qu'il ne veut plus y aller, que passer 3 heures sous une tempête ne vaut pas le coup par rapport à ce qu'ils vont vivre en regardant le match. Mais son ami n'est pas du même avis et lui dit « J'ai pas envie de perdre 12 $, j'ai payé pour ce ticket, je veux y aller !» Et c'est là que le biais des coûts irrécupérables rentre en action. La logique économique voudrait qu'il ne considère que les investissements à venir versus le gain et non pas ce qui a déjà été dépensé. De cette manière, il est évident que si les désagréments d'être assis dans le froid, au milieu d'une tempête aveuglante, sont plus forts que le plaisir de voir le match, alors il ne faut pas y aller. Peu importe les investissements qui précèdent la situation. Les plus curieux d'entre vous peuvent retrouver sur Internet les 8 expériences mises en place par Arques et Bloemer qui expliquent ce biais, démontrant que notre décision irrationnelle vient compenser une dissonance cognitive générée par la perte potentielle de son premier investissement. C'est d'ailleurs ce biais qui est exploité au poker lorsqu'un joueur avec une main forte veut emmener un autre joueur à suivre une grosse mise. Il va le faire miser progressivement pour que son adversaire considère ce qu'il a déjà misé plutôt que ce qu'il pourrait éviter de perdre en plus. Vous avez rencontré plusieurs fois le terme « dissonance cognitive » depuis que vous avez commencé votre écoute. Même si le sens induit est facilement compréhensible, une définition n'est jamais superflue. Une dissonance cognitive est une sensation désagréable causée par une incohérence entre vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos actes. Ce terme a été inventé en 1957 par le psychologue Léon Festinger. Le cerveau ne peut pas rester dans un état de dissonance cognitive et va chercher à l'éviter ou à le compenser à l'aide de justifications, de soumission ou de persistance. Exemple de dissonance cognitive. Si j'ai acheté un équipement complet pour faire du sport et que je n'en fais jamais, je vais me justifier en expliquant que je n'ai pas assez de temps en ce moment et que je commencerai à une date clé, le mois prochain, à mon anniversaire, etc. Voici une liste de 10 biais cognitifs majeurs que vous devez connaître et comprendre afin de pouvoir les identifier lorsque vous les subissez ou lorsque quelqu'un essaie de les utiliser pour vous manipuler. Pour le moment, écoutez-les et essayez simplement de vous remémorer des souvenirs où vous ou une autre personne était sous l'influence du biais en question. Il est admis par les psychologues qu'il existe aux alentours de 180 biais cognitifs différents. Ce nombre est probablement amené à évoluer dans les années à venir. Les 10 que vous allez trouver ici ont été sélectionnés car ils sont très représentatifs des schémas dont vous devez vous méfier. L'erreur fondamentale d'attribution. Un grand classique des biais cognitifs, malheureusement. Introduit en 1977 par le psychologue Lee Ross, ce biais représente notre tendance naturelle à sous-estimer les causes extérieures au profit des causes personnelles. Je pourrais reformuler en disant que ce sont les motivations d'une personne ou ses efforts qui expliqueraient sa situation, plus que les événements extérieurs. Quelques exemples. Le fait de penser qu'une personne au chômage depuis des années ne fait pas assez d'efforts pour trouver un emploi. Si quelqu'un que l'on apprécie que moyennement rate son examen, on va privilégier la piste selon laquelle sa manière de réviser était mauvaise ou qu'il n'est pas intelligent. Dans le premier exemple, la conjoncture montre la difficulté de trouver un emploi. Et les études démontrent que les chômeurs préféreraient avoir un emploi même pour des revenus équivalents. Et dans le deuxième exemple, il peut simplement s'agir d'un examinateur sévère, d'un sujet qui n'a pas été traité durant l'année, ou simplement de sa seule lacune dans la matière sur laquelle il était interrogé. Nous sommes tous soumis à ce biais. Il est très difficile de s'en extraire. Ce jugement hâtif est un accès simple à nos émotions pour les manipulateurs. Vous devez donc en avoir pleinement conscience. Pourquoi il fonctionne ? Tout d'abord à cause de notre besoin de compréhension. Il est plus simple de trouver une explication interne, même si nos hypothèses sont erronées, qu'externe, qui nécessite d'aller chercher des données. Ensuite, à cause de notre besoin de justice, nous préférons nous dire que chacun est responsable de ce qui lui arrive, alors que nous sommes les premiers à expliquer pourquoi nos désagréments viennent des causes extérieures. Et bien sûr, à cause de notre besoin de contrôle. Là aussi, il est plus simple de contrôler une explication interne, puisqu'encore une fois, il ne s'agit que d'hypothèses, qu'une explication externe, faite de données objectives. Cette dernière raison fait partie d'un biais à part entière, l'illusion de contrôle que nous verrons en troisième biais. Le biais d'autocomplaisance. L'erreur fondamentale d'attribution nous fait rapidement bifurquer vers son voisin, le biais d'autocomplaisance. C'est notre capacité à nous attribuer le mérite de nos réussites, en négligeant les facteurs extérieurs ou tout bêtement le hasard, et à attribuer nos échecs à des facteurs extérieurs qui nous nuisent. La faute à qui ? Un exemple que je vois souvent chez les créateurs de contenu sur Internet, Si notre vidéo YouTube ou notre photo Instagram fonctionne, c'est par la qualité de notre travail et l'originalité de nos idées. Par contre, quand ça ne fonctionne pas, c'est à cause de la période, des autres ou simplement de l'algorithme de la plateforme. Pourquoi il fonctionne ? Parce que nous avons toujours l'impression spontanée d'avoir fait de notre mieux. Notre cerveau veut nous conforter dans l'idée que nous sommes au meilleur de nos capacités, de ses capacités. Un manipulateur, en ayant conscience et voulant accéder à nous par cette entrée, va jouer sur nos peurs, en désignant à notre place des coupables pour un échec, peut-être même le coupable qui l'arrange. Ou sur notre ego, en désignant à notre place les actions incroyablement efficaces que nous avons effectuées pour obtenir un succès. L'illusion de contrôle. Comme son nom l'indique, c'est notre erreur de jugement qui nous donne l'impression de pouvoir contrôler notre environnement, plus particulièrement le hasard et les événements aléatoires. Qui n'a jamais compté jusqu'à 10 dans sa tête pour faire apparaître le bus que l'on attend ou pour faire passer le feu au vert? Cette illusion de contrôle du hasard peut être matérialisée de plusieurs manières. Par des rituels, avant de monter sur scène, j'écoute toujours la même chanson, par exemple. Par de la stratégie. Je compte jusqu'à 10 et le bus arrive. Sans surprise, on retrouve ce biais chez les joueurs dans les casinos, les jeux de loterie, le poker et tous les jeux où le hasard intervient. Mon choix a de la valeur. La professeure de psychologie de Harvard, Helen Langer, a réalisé une expérience sociale sur le sujet. Dans une entreprise, Helen propose aux salariés de participer à une loterie. Ils doivent simplement acheter un billet dont le coût est de 1 $. Elle constitue, à leur insu, deux groupes. Le premier groupe a la possibilité de choisir le numéro qu'ils veulent sur le billet. Le deuxième groupe se voit délivrer un billet imposé lors de leur achat. Peu après, les équipes d'Hélène expliquent à chaque personne qu'un autre salarié de la société souhaiterait aussi participer, mais qu'il n'y a plus de billets disponibles. Ce salarié cherche donc à racheter un billet à quelqu'un et l'expérimentateur demande si la personne veut bien revendre son billet, et si oui, pour combien. Les résultats, présentés dans son article « The Illusion of Control », publié dans le Journal of Personality and Social Psychology en 1975, sont édifiants. 37% des personnes qui avaient choisi leur billet ont refusé de le vendre, contre 19% chez ceux qui avaient eu un billet imposé. Presque le double donc. Et parmi celles et ceux qui ont bien voulu revendre leur billet, le prix moyen de revente fut de 8,9 $ chez les personnes qui avaient choisi leur billet, contre seulement 1,9 $ chez les personnes qui avaient eu un billet imposé. Presque 5 fois plus. La raison est bien évidemment l'illusion de contrôle qui donne l'impression à l'acheteur initial que son billet a plus de valeur car il l'a choisi, selon des critères qui n'ont pourtant pas de valeur réelle sur une augmentation des chances de gain. Un manipulateur connaissant ce biais fera en sorte de vous laisser un maximum de contrôle sur vos choix pour vous faire adhérer à quelque chose de hasardeux. D'ailleurs, même les casinos expliquent des stratégies que les joueurs sont libres d'adopter pour jouer à la roulette ou aux machines à sous, qui sont pourtant des jeux de hasard par excellence. La maximisation du négatif. Ce biais existe en chacun d'entre nous et tend à être plus puissant dans des périodes difficiles émotionnellement, telles que la dépression. C'est la propension du cerveau à se souvenir plutôt des éléments négatifs que des éléments positifs. Ce biais a dû nous être utile à une époque de l'humanité pour se souvenir des dangers et des difficultés que nous pouvions rencontrer dans notre vie. Mais aujourd'hui, il est encombrant dans notre manière d'analyser le monde. Nous allons avoir tendance à exagérer ce qui ne va pas, à dramatiser, pendant que l'on va réduire ce qui va bien et minimiser nos réussites. Un manipulateur qui détecte la présence de ce biais chez nous va pouvoir l'accentuer en mettant encore plus en avant l'importance de vos problèmes, en créant des hypothèses de conséquences encore plus catastrophiques pour abonder dans votre sens et vous faire douter. C'est un accès direct à votre confiance en vous. L'effet de cadrage. Voici encore un biais qui trouble notre quotidien sans que nous en ayons conscience. Les médias l'utilisent, les politiques aussi. Il sert à présenter une information, non trafiquée, en choisissant un cadre favorable à ce que l'on veut faire penser à l'autre. Une pièce a une valeur, mais deux côtés. Voici un exemple. Je vais faire un sondage auprès de vous qui écoutez ce livre audio afin de savoir si je dois faire une conférence sur le thème de la manipulation. Imaginons que vous soyez 68% à me dire non, mais que je veuille convaincre mon éditeur que c'est une bonne idée. Je vais lui dire que plus de 32% des lecteurs approuvent ma proposition. Je souligne le point qui m'arrange dans l'information afin de la connoter positivement. Je n'ai pas changé l'information, pourtant l'honnêteté intellectuelle serait de parler du plus gros pourcentage. Ne sous-estimez pas ce biais, car c'est justement parce que l'on ne se méfie pas qu'il fonctionne. C'est Daniel Kahneman, psychologue américano-israélien, mais aussi prix Nobel d'économie, qui a pu démontrer ce biais en 1981 avec une étonnante expérience. Pour l'anecdote, j'ai reproduit l'expérience dans l'émission Antidote sur France 2 le 7 mars 2021. Kahneman réunit des volontaires qu'il sépare en deux groupes. Les individus de chaque groupe doivent choisir la meilleure option selon eux pour sauver le maximum de personnes menacées par une maladie, fictive bien sûr, qui risque de tuer plus de 600 personnes. Le premier groupe doit choisir entre deux options de traitement. La première option, qui va permettre de sauver 200 personnes. La deuxième option, qui est plus aléatoire. En effet, en choisissant cette option, il y a 33% de chances que tout le monde soit sauvé et 66% de chances que personne ne soit sauvé. Le second groupe a les mêmes options, mais formulées différemment. La première option, qui va provoquer la mort de 400 personnes. La deuxième option, qui est plus aléatoire. En effet, en choisissant cette option, il y a 30% de chances que personne ne meure et 66% de risque que tout le monde meure. Le premier groupe a choisi à 72% la première option. Ne voulant pas prendre le risque de ne sauver personne, ils se sont concentrés sur les 200 qu'ils pouvaient guérir. Le deuxième groupe a choisi à 78% la deuxième option, ne voulant pas prendre la responsabilité de faire mourir 400 personnes avec certitude. Il faut comprendre que pour les deux groupes, seule la formulation des options a changé. Les probabilités de survie sont identiques d'un groupe à l'autre. D'ailleurs, un calcul en probabilité montre que les deux options donnent un nombre de survivants attendu de 200. En remplaçant le verbe « sauver » par « mourir » et en adaptant les chiffres selon le verbe choisi, l'impact cognitif est immédiat. Voilà pourquoi certains sites internet proposent de cliquer pour vous abonner à leur newsletter, quand d'autres vous demandent de cliquer pour ne pas recevoir leur newsletter. Vous pouvez vous entraîner à aborder des présentations de données en vous les formulant vous-même dans les deux sens, afin de ressentir au mieux les différents sens cognitifs. La corrélation illusoire. Comme son nom l'indique, ce biais va trouver du sens entre deux données, bien réelles, alors qu'elles n'ont pas de lien entre elles. Ce sont les psychologues américains Chapman et Chapman qui ont découvert ce biais cognitif en 1967. Un exemple d'acharnement. Un exemple que vous avez peut-être vécu est celui d'être en retard et d'avoir les feux de signalisation au rouge sur votre trajet. Et vous vous dites, à chaque fois que je suis en retard, il faut que les feux soient rouges. Vous venez de mettre en relation deux données qui n'ont aucune interaction entre elles. Ce biais est utile pour les manipulateurs car nous allons nous-mêmes conclure que les données fonctionnent ensemble. C'est encore plus vrai lorsqu'on nous présente des chiffres venant de domaines que l'on ne maîtrise pas. Un exemple amusant. Si vous faites un graphique allant de l'année 2000 à l'année 2009 qui référence la quantité de margarine consommée aux États-Unis et le nombre de divorces dans l'État de Maine, vous verrez que les deux courbes se suivent quasiment à l'identique. Il est pourtant évident que la consommation de margarine aux États-Unis influence nullement le bien-être des couples du Maine. C'est un hasard que les courbes se suivent. Le biais de corrélation serait donc de les associer sous prétexte que les courbes se ressemblent. Il faut donc se rappeler que la corrélation et la causalité sont bien deux choses radicalement différentes. Réfléchissez toujours s'il y a vraiment un lien entre les données que l'on vous présente. Un dernier exemple. Un biais de corrélation dira que les personnes qui respirent meurent toutes. C'est vrai, car l'immortalité n'existe pas, mais ça n'est pas la cause de leur décès. La causalité aurait été de dire que les personnes qui ne peuvent pas respirer meurent, car il s'agirait donc de la cause de leur décès.